19h17 sur France Inter, le journal des sports. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Jean-Michel.
C'est l'un des matchs paillettes de la saison de football, PSG et Marseille. Et trop programme de la soirée pour clôturer la 11e journée de Ligue 1.
On l'appelle le classico ou le classique, hein, si vous le prononcez à la française. Coup d'envoi 21h au Parc des Princes. En fait, c'est le dessert des trois matchs du jour. Puisque tout à l'heure, Rennes a arraché la victoire contre Toulouse, 3-2. Saint-Etienne a arraché le match nul contre Amiens, 2-2. Et donc ce soir, ce duel annuel entre deux clubs qui entretiennent l'une des plus grandes rivalités du foot en France. Bonsoir Bruno Salomon.
Bonsoir Jean-Pierre.
Alors le Paris Saint-Germain, leader du championnat, même de nouveau hein, privé de Neymar, fait figure de grand favori dans le sillage de Kylian Mbappé, de nouveau étincelant, on l'a vu en Ligue des Champions. On ne voit pas comment Paris pourrait trembler ce soir.
Oui, il est serein hein, ce Paris Saint-Germain. Jean-Pierre, vous faites bien de le souligner. Le classique fait toujours saliver hein, les joueurs du PSG. Mais l'OM ne fait plus trembler vraiment depuis bien longtemps le Paris Saint-Germain. 19 rencontres sans défaite pour le PSG face à Marseille. Imaginez, depuis novembre 2011, Paris n'a plus perdu face aux Olympiens. La moindre rencontre hein, face à cette ennemi sportif. Et ce soir, mis à part un scénario assez improbable, on ne voit pas comment le PSG pourrait mettre genou à terre face à l'OM, tant les Di Maria, Icardi ou encore Mbappé, et je ne vous parle là que des attaquants, sont en forme et pourraient faire très très mal, Jean-Pierre, à cet OM.
Alors, c'est un match de championnat, on l'a dit, mais c'est un PSG qui doit jouer en mode Ligue des Champions. C'est le sentiment de l'entraîneur Thomas Tuchel. Il l'a expliqué en conférence de presse.
C'est comme un match en Ligue des Champions, c'est comme un match en demi-finale, finale de Coupe de France, c'est comme ça, c'est un match avec une grande histoire. Pour moi, c'est absolument nécessaire qu'on respecte cette histoire pour notre supporter, parce que c'est très important pour eux. Mais on aime cette ambiance et une atmosphère comme ça. Je suis convaincu que nous sommes prêts pour combattre avec eux.
Alors Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, aura face à lui une équipe de l'OM qui, dans ce contexte, a une chance de briller ce soir. Il y a même une vraie carotte, Bruno, montée sur le podium. Alors là, il faudrait un exploit.
Oui, effectivement, hein, même si sur le papier hein, c'est du 80-20 en faveur du PSG, c'est vrai que la carotte est belle hein, pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Imaginons, Marseille s'impose ce soir face au PSG, outre le soulagement des fans qui pourraient même bien faire la fête du côté de la Canebière, eh bien l'OM pourrait s'installer sur le podium. André Villas-Boas, l'entraîneur olympien hein, qui va vivre son premier classique, le sait bien et il espère que le retour de Dimitri Payet, son maître à jouer, va permettre à cet OM, eh bien à écrire, pourquoi pas, une belle histoire de ce classique entre le PSG et l'OM.
Merci Bruno Salomon, Dimitri Payet qui sera donc titulaire. Et puis, vous savez, il y a un classico féminin aussi, hasard du calendrier, qui avait lieu, Jean-Michel, cet après-midi à Marseille. Eh bien, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer 5-0.
Ça fait mal. Le rugby, la Coupe du Monde au Japon, on connaît déjà l'affiche là, de la finale. Ce sera Angleterre, Afrique du Sud.
Après la victoire des Anglais contre les All Blacks de Nouvelle-Zélande hier, ce sont les Sud-Africains qui se sont imposés ce matin face au Pays de Galles dans un match très indécis, 19-16 au final. Alors un essai de part et d'autre, mais une pénalité qui gagne en fin de match pour l'Afrique du Sud, qui prive les Gallois de leur première finale. L'Afrique du Sud qui va retrouver l'Angleterre en finale. C'est d'ailleurs plutôt logique. Voici pourquoi, explique le consultant rugby pour France Inter, Guy Akoseberry.
En début de compétition, on citait surtout la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et l'Afrique du Sud parmi les trois grands favoris. Après, on savait que le Pays de Galles, d'autres équipes n'étaient pas trop loin, mais c'était vraiment ces trois-là qui se dégageaient. Voilà, on en retrouve deux sur les trois, donc c'est logique.
Avec deux grosses défenses donc qui vont se retrouver en finale, ça promet un match disputé, Guy Akoseberry.
Oui, des équipes très physiques des deux côtés. Là, on se rend compte quand même que sur les phases finales de cette Coupe du Monde, c'est le physique qui prend le dessus. Hein. On espérait avoir une Coupe du Monde. On l'a eu d'ailleurs pas dans les poules, on a eu quelques matchs intéressants avec beaucoup de jeux, de vivacité, de prise d'espace, d'essais. Là, sur ces phases finales, c'est vraiment, que ce soit les Anglais hier ou aujourd'hui les Sud-Africains, c'est deux équipes très très physiques, ça va taper très fort. Je pense que ça se jouera à pas grand chose, même si les Sud-Africains n'ont pas été brillants aujourd'hui, ils ont même pu perdre. Je pense que le week-end prochain, ils vont nous montrer un autre visage et le match sera à la fois intéressant, physique et indécis.
Guy Akoseberry, consultant rugby pour France Inter, au micro d'Edouard Marguet. Alors la finale, ce sera samedi à 10h heure française, puisque c'est au Japon, hein, vous le savez Jean-Michel.
Oui.
Et les matchs pour la troisième place la veille, vendredi à 10h. Si vous êtes au bureau, amenez votre télé.
Voilà. On l'appelle aussi la route du café. La Transat Jacques Vabre est partie à la mi-journée.
Le départ de la 14e édition de cette Transat en double a été donné à 13h15. Les concurrents quittaient le Havre pour rallier Salvador de Bahia au Brésil. Départ idéal, sans erreur pour aucun des participants, même si le plus dur va commencer dans les heures qui viennent, Fabrice Rigobert.
Après un départ idéal dominé par le PRB de Kevin Escoffier et Nicolas Luneven à la bouée Normandie devant Etretat, les marins vont maintenant se concentrer sur la sortie de la Manche. Un premier écueil nous confiait Pascal Bidégory, co-skipper de 11e heure.
Sortir de Manche, c'est pas anodin, il y a des cargos dans tous les sens, on a deux TSS à traverser. Enfin, les DST, c'est les zones de séparation de trafic des cargos. Il y a des cailloux, il y a des changements de voile à faire en plein milieu de la nuit. La première nuit, on va pas dormir. On va rentrer dans le golfe de Gascogne. On va se faire un peu cueillir par l'état de la mer qui va aller en forcissant. Il faut arriver à s'extirper de tout ça sans encombre.
À cette vigilance va s'ajouter la pression du choix tactique que les navigateurs vont devoir faire dans les prochaines heures. Un choix météo peut être décisif pour contourner une dépression installée sur les Açores. Jérémy Bayou, le skipper de Charal, l'un des monocoques semi-volants.
Est-ce qu'on part cap ou nord-ouest pour contourner tout le phénomène dépressionnaire dans du vent très fort? Ou est-ce qu'on essaie de trouver une route alternative en travers du golfe de Gascogne, qui est une route plus directe, qui est peut-être moins rapide? Potentiellement, il peut y avoir deux groupes qui vont se scinder recroiser au bout d'une semaine ou plus, quoi. Donc, ça peut laisser pas mal de suspense quasiment jusqu'au bout. Ouais.
Aller vite, le plus vite possible, sans casser sa monture. Les marins vont se relayer sans relâche pendant deux semaines dans cette cavalcade à travers l'Atlantique, sur un parcours similaire à la première partie du Vendée Globe que tous les navigateurs ont en point de mire. Le Havre, Fabrice Rigobert, France Inter.
Et au classement pour l'instant de la principale catégorie, les multi-50, c'est Thibaut Vauchel-Camus et Fred Dutille qui sont en tête. Et puis les IMOCA, c'est-à-dire les bateaux de type Vendée Globe, Kevin Escoffier et Nicolas Luneven.
On passe au tennis. Roger Federer continue de briller.
Oui, et c'est à Bâle. Pour la 10e fois, il emporte le tournoi chez lui, là où il a débuté le tennis. Il a battu en finale l'Australien Alex de Minaur, 28e joueur mondial, en 2-7, 6-2, 6-2. C'est surtout la 103e victoire en ATP pour Federer, qui n'est plus qu'à 6 tournois du record légendaire de Jimmy Connors.
Le tennis toujours, mais à Paris, après deux jours consacrés aux qualifications, le Masters 1000 de Bercy débute demain avec un plateau de qualité.
Oui, on peut le qualifier comme tel, puisque 15 ou 16 des 17 meilleurs joueurs du monde vont faire le déplacement. Je dis 15 ou 16 parce qu'il y a une incertitude sur Roger Federer qui prendra sa décision demain. S'il est là, avec Nadal et Djokovic, eh bien, E3, elle totalise 55 titres du Grand Chelem. Et comme l'an passé, le tournoi devrait constituer un choc de génération entre les trois géants et des jeunes comme Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Dominic Thiem ou encore Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Karen Khachanov, le tenant du titre, et j'en passe. Guy Forget fait de Djokovic, Nadal ou Federer les favoris, mais il s'attend à ce que ces joueurs soient bousculés par la nouvelle génération.
Et la place numéro mondial, on sait après le Masters qui peut se jouer, il y a 1000 points à gagner sur ce Rolex Paris Masters, et on sait que Nadal, Djokovic peuvent se passer l'un devant l'autre. Il y a des places pour le Masters encore, ils sont plusieurs à pouvoir se qualifier pour Londres. Il y a la Coupe Davis qui arrive derrière aussi, avec des joueurs français qui vont avoir envie de, devant leur public, de galaner de la confiance. Il y a la nouvelle génération qui arrive enfin à grands pas, avec des joueurs qui ont déjà fait de grosses surprises dans les mois précédents, et qui parmi ces jeunes garçons va reprendre le flambeau et essayer de faire trébucher les Rafael Nadal, Roger Federer, Djokovic. Je crois que là on a commencé à voir avec Dani Medvedev, un petit peu avec Zverev à un moment donné, et il y en a d'autres, Berrettini, là des garçons qui frappent très fort sur la table et qui on sent vraiment envie de s'imposer. Alors on va dire entre guillemets, hein, les anciens font de la résistance. Je crois que ce Rolex Paris Masters va nous donner finalement quelques indications assez intéressantes sur ce qui va se passer non seulement sur le Masters mais sur la saison 2020.
Guy Forget, le directeur de ce Masters 1000 de Paris-Bercy, au micro de Fabrice Abgral. Alors, il y a 8 Français, hein, à l'affiche. 4 vont jouer demain. Jérémy Chardy, Benoît Paire à partir de 16h et en gros à partir de 19h30. Joe Wilfried Tsonga et Adrian Manarino.
La saison de ski alpin a débuté ce week-end en Autriche et les Français Cocorico ont brillé.
Hier, Tessa Wehrlein a pris la 3e place du géant de Solden. Aujourd'hui, dans la course masculine, doublé tricolore. Hein. Alexis Pinturo s'impose devant Mathieu Fèvre. Alexis Pinturo a même fini avec une bonne marge, hein, une demi secondes d'avance sur son compatriote. De très bon augure, hein, quand on sait qu'après la retraite de Marcel Hirscher, la porte est ouverte pour sa succession en Coupe du Monde. Alexis Pinturo.
Oui, très bon moyen de commencer l'hiver. C'est sûr que c'est toujours quelque chose de beau, quelque chose de grand, surtout en début de saison. Ça permet de donner un peu de baume au cœur et de savoir si on a bien travaillé, quoi. Mais je pense que tout l'hiver, il y aura un peu plus d'attente, un peu plus de pression sur tous les athlètes qui tournaient autour de Marcel, sur tous les top favoris hein, en dehors de Marcel. Donc voilà, ces athlètes-là, automatiquement, au lieu qu'il y ait beaucoup de choses qui sont concentrées sur Hirscher comme c'était par le passé, maintenant ça s'est un peu plus réparti sur les athlètes qui pouvaient y avoir autour. Et j'en fais partie. Donc j'en étais conscient. Maintenant, je fais avec. Je sais aussi qu'il faut tout simplement skier vite parce que si on ne le fait pas, les autres le feront.
Alexis Peintureau, vainqueur du géant de Zolden en Autriche. Prochaine étape de la Coupe du Monde de ski alpin les 23 et 24 novembre en Finlande.
On revient à Paris où les internationaux de France de badminton se sont achevés aujourd'hui.
La victoire du chinois Long Chen dans le tableau masculin. La coréenne Se Young s'impose dans le tableau féminin. Mais c'est l'occasion de rappeler qu'en France, le badminton fait partie de 3 sports les plus pratiqués à l'école. 190 000 licenciés, 170 000 dans des associations scolaire, peut-on s'appuyer sur les jeunes pour rayonner sur la scène internationale? Adèle Benoumri.
Le projet Ambition 2025 de la Fédération française de badminton est clair, obtenir des médailles. Ronan Labarre est quintuple champion de France et a été professeur de PS pendant 3 ans. Pour lui, l'école est un véritable vivier sur lequel s'appuyer pour former des futurs champions.
On se rend compte que les enfants aiment ce sport et donc voilà, il faut réussir à leur donner goût, à leur donner l'esprit de compétition un petit peu pour que ces joueurs ne restent pas seulement au niveau loisir scolaire mais deviennent des compétiteurs au sein de la fédération.
À part une médaille de bronze glanée en 2009 au championnat du monde, la France n'a rien à se mettre sous la dent sur la scène mondiale ou olympique. Pourtant, comme l'explique le président de la fédération, Florent Chaillet, cela pourrait changer grâce à ces nouveaux talents.
Nous avons actuellement des résultats que nous n'avons jamais eus encore. Mais ces résultats, nous les avons chez des athlètes qui sont plutôt jeunes. Par exemple, Christo Popov vient d'avoir une médaille d'argent au championnat du monde junior. Donc, c'est évident que Christo Popov n'a aucune chance de pouvoir avoir une médaille à Tokyo. Mais au contraire, personne ne peut dire qu'il n'aurait aucune chance d'en avoir une en 24 à Paris.
La France n'a jamais dépassé les quarts de finale au badminton, aux Jeux Olympiques, mais peut-être que la nouvelle génération de fous du volant peut se permettre de rêver à l'horizon 2024.
Adil Belloumri pour France Inter, et puis un petit mot de Formule 1 quand même, le Grand Prix du Mexique. Pole position finalement pour Charles Leclerc devant Sébastien Vettel, deux Ferrari sur la première ligne, parce que Max Verstappen, qui avait réalisé le meilleur temps des essais, a été déclassé de 3 places. Coup d'envoi de ce Grand Prix vers 20h30, je crois, au Mexique.
Merci Jean-Pierre pour ce journal des sports très complet.